Il est 8h.
Nous serons victorieux. Mais ça ne sera pas ma victoire. Ce sera une victoire pour le peuple américain, pour la démocratie, pour l'Amérique.
Joe Biden s'y voit déjà et commence même à parler comme un président élu, rassembleur au-delà des camps républicains et démocrates. Alors qu'on va le voir, le clivage, la polarisation sont au maximum. État d'urgence prolongé à Portland après des manifestations. Nous irons en Pennsylvanie en direct assister au dépouillement qui a commencé il y a plus de 24 heures dans cet état crucial, tandis que Donald Trump et ses partisans appellent à la suspension des décomptes. Et puis dans l'actualité, cette information Europe 1, vous saurez comment Emmanuel Macron s'implique très personnellement et décroche son téléphone pour renvoyer dans leur pays d'origine les 231 étrangers radicalisés que la France veut expulser.
Juste après ce journal, première réaction française en plein suspense électoral américain. Biden ou Trump, ça change quoi pour nous Français? Quel regard aussi sur l'extrême division de la société américaine? Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, répondra aux questions de Sonia Mabrouk à 8h15. Bienvenue sur Europe 1.
Écoutez le monde changer.
Depuis hier, la carte des États-Unis a un peu clignoté. Il y a toujours cette diagonale rouge républicain du Montana jusqu'à la Floride et ces États qui sont passés en bleu, le Wisconsin, le Michigan. Et si on compte l'Arizona, attribué à Joe Biden par l'agence AP qui fait référence, le démocrate a pour lui 264 grands électeurs, tout près des 270 qui le feraient rentrer à la Maison-Blanche.
Bonjour Xavier Yvon.
Hello again, bonjour à tous.
En direct de New York, avec nous, notre tour de contrôle des résultats, Xavier Yvon. Est-ce que tout est perdu pour Donald Trump?
Alors, ce n'est pas encore totalement perdu pour Donald Trump, puisqu'on dépouille encore dans trois États indécis. Il lui reste un chemin, comme on dit ici, vers les 270 grands électeurs, mais un chemin très étroit. Donald Trump doit remporter tous ces États qui dépouillent encore pour rester président. Celui qui a un boulevard, en revanche, c'est Joe Biden. Il lui suffit d'un seul de ces États qui sont encore en train de compter pour l'emporter. Ça pourrait être la Géorgie. On nous promet des résultats bientôt, dans les prochaines heures. Il reste quelques milliers de votes à dépouiller. Joe Biden est en train de remonter son retard de manière spectaculaire dans cet État du Sud. Et il espère dépasser Donald Trump sur la ligne d'arrivée, comme il l'a fait hier dans le Michigan et le Wisconsin. Et puis, si ce n'est pas la Géorgie qui lui offre la Maison-Blanche, eh bien, ça peut encore être le Nevada ou la Pennsylvanie.
Mais alors Xavier, hier à cette heure-ci, on parlait d'une surprise en faveur de Donald Trump. Qu'est-ce qui s'est passé depuis ?
Ce qui s'est passé depuis, c'est que le mirage rouge républicain s'est dissipé pour laisser la place à la réalité bleu démocrate. Hier, il manquait encore des dizaines de millions de votes par correspondance à dépouiller. Ils sont très majoritairement démocrates. Et donc, au fur et à mesure qu'ils ont été ajoutés dans la journée, bien les écarts qui paraissaient énormes hier en faveur de Donald Trump se sont petit à petit réduits. Je vous donne un exemple pour comprendre. En Géorgie, dont je vous parlais, en 24 heures, l'avance de Donald Trump a été divisée par 10, de 370 000 voix à 37 000. Et c'est pour ça que le président veut qu'on arrête de compter. Ses avocats ont déposé des recours pour qu'on stoppe le dépouillement en Pennsylvanie et en Géorgie.
Xavier Yvon, en direct de New York pour Europe 1. Le président sortant veut arrêter le dépouillement. Ses partisans, comme ici à Détroit dans le Michigan, le suivent évidemment.
Stop the count.
Stop the count. Arrêtez le décompte. Bonjour Théo Manval.
Bonjour François.
Ce décompte que vous suivez, vous, en Pennsylvanie, à Pittsburgh, état majeur à l'heure qu'il est, puisqu'il compte pour 20 grands électeurs. Où en est-on ce matin, Théo ?
Et bien là aussi, le dépouillement se poursuit et l'écart se resserre. Il reste 11% des bulletins à compter, 760 000 environ. Et Donald Trump n'a plus que 160 000 voix d'avance, 4 fois moins qu'hier. Or, les bulletins qui restent, c'est le vote par correspondance, les grandes villes qui doivent plus pencher pour Joe Biden. Les démocrates ont voté 3 fois plus par correspondance que les républicains. Donc les conseillers ici de Joe Biden se montrent plutôt confiants.
Et Donald Trump, lui, se méfie. On le dit, il dépose des recours, notamment devant la Cour suprême. La Cour suprême locale, celle de l'État où vous vous trouvez, pour faire suspendre ce dépouillement.
Oui, il estime qu'il n'est pas normal qu'on continue de prendre en compte les bulletins qui arrivent après le jour de l'élection. La loi ici permet de recevoir ces votes par courrier jusqu'à 3 jours après le scrutin, tant qu'ils ont bien été envoyés le jour J. Et ce recours a suscité cette nuit des manifestations d'électeurs, vous l'entendez, dans plusieurs grandes villes comme ici à Pittsburgh.
Il n'est pas acceptable que des gens votent et que leur voix ne soit pas prise en compte. Le président a tort là-dessus. N'importe quel dirigeant demandant à ce que des votes ne soient pas décomptés, c'est corrompre la démocratie.
Voilà, le gouverneur de Pennsylvanie a assuré que tous ces bulletins seraient bien pris en compte. On espère un dépouillement terminé ici en Pennsylvanie au plus tard d'ici demain, vendredi.
Théo Manval, en direct de Pennsylvanie pour Europe 1. Vous l'entendez, ce matin, les Républicains parlent de fraude. Je voudrais un instant vous faire réentendre ce que disait il y a quelques instants sur Europe 1 l'avocat Alan Dershowitz, lui qui a défendu Donald Trump lors de sa procédure d'impeachment.
L'élection parfaite n'existe pas. Toute élection a sa part de fraude, d'erreur, d'électeurs empêchés de voter. Mais je ne vois pas beaucoup de preuves de fraude dans cette élection. Il semblerait que ce soit l'élection la plus en règle qu'on ait jamais eue, parce que le monde entier regarde. On regarde pour s'assurer que la Russie, que l'Iran et d'autres pays n'interfèrent pas dans l'élection. Donc, je pense que ce sera finalement une élection très juste.
Cet entretien avec l'avocat Alan Dershowitz, de votre tête-à-tête, Mathieu, il y a 20 minutes, c'est à retrouver sur Europe1.fr.
Xavier Yvon, on vous retrouve à nouveau en ligne depuis New York. Cette guérilla juridique nécessite du soutien, sauf que pour l'instant, le Parti républicain ne suit pas.
Ah non, non, les caciques, les pontes du Parti républicain pour l'instant ne veulent pas s'aligner derrière la guérilla de Trump, notamment le patron du Sénat, Mitch McConnell, qui a été réélu. Il dit qu'il faut aller jusqu'au bout du décompte, on ne peut pas se déclarer vainqueur comme ça. Même un ami, un proche de Donald Trump, Chris Christie, a dit la même chose. Et il y a aussi, par exemple, le gouverneur de l'Ohio qui, lui, a carrément dit « je suis pour Donald Trump, mais si à la fin ça doit être Biden, eh bien on doit tous accepter ça, il faut tout compter ».
Merci Xavier Yvon, en direct de New York pour Europe 1, 8h07. Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à la frontière franco-espagnole pour parler de lutte contre le terrorisme et immigration.
Bonjour Louis Dragnel.
Bonjour.
Du service politique d'Europe 1. Depuis l'attentat de Nice, le chef de l'État veut s'emparer très personnellement, vous nous le révélez, de la question migratoire.
Oui, désormais c'est le président qui décroche lui-même son téléphone comme lundi lorsqu'Emmanuel Macron a appelé son homologue tunisien pour lui demander de récupérer ses ressortissants radicalisés que la France veut expulser. Selon nos informations, Emmanuel Macron prévoit de faire la même chose avec les autorités marocaines et algériennes. Il faut savoir que parmi les 231 étrangers radicalisés que Paris veut renvoyer, plus de la moitié vient du Maghreb. Alors ces coups de fil présidentiels ne sont pas donnés par hasard. Ils interviennent juste avant la tournée que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit effectuer à Malte, Tunis et Alger, précisément pour régler ces dossiers d'expulsion. Et je peux vous le dire ce matin, si le message ne passe pas bien, la France n'hésitera pas à réduire le nombre de visas qu'elle délivre chaque année et à revoir sérieusement, à la baisse, l'aide financière à ces pays. Une menace que la diplomatie française a toujours refusé d'agiter. Une menace qui, cette fois-ci, sur injonction présidentielle, pourrait bien être mise à exécution.
Merci Louis Dragnel.
Alors Emmanuel Macron au téléphone et puis par courrier aussi. Il a envoyé une longue lettre à la rédaction du Financial Times.
La France ne se bat pas contre l'islam, écrit le président en réponse à un article paru lundi, puis retiré par le journal britannique et dont Emmanuel Macron estimait qu'il déformait ses propos sur le séparatisme. Lui est censé être le grand méchant loup de l'économie et le grand gagnant des confinements. On n'aurait pas le compris.
Je suis l'ami de toutes les entreprises françaises, déclare le patron d'Amazon France ce matin dans le journal Le Parisien.
Il répond aussi à Bruno Le Maire qui critiquait les grandes plateformes numériques. Nous ne sommes en aucune façon l'adversaire de l'État, déclare Frédéric Duval qui revendique d'avoir versé 420 millions d'euros d'impôts et taxes en 2019.
Vous avez peut-être entendu à 7h30 ce témoignage poignant d'une petite fille de 9 ans qui a subi du harcèlement scolaire et qui a dû changer d'école. Les cas de ce type sont en augmentation.
Oui, notamment sur Internet, plus 26% sur un an, selon l'association e-Enfance. La prévention, le plus tôt possible, c'est la clé. Reportage étonnant. Vous allez l'entendre avec des élèves de CM2 formés à repérer ce harcèlement. Virginie Riva pour Europe 1 dans une école du 19e arrondissement de Paris.
Ils sont réunis dans la salle de classe qu'ils utilisent pour recevoir leurs camarades en entretien d'une quinzaine de minutes sans adultes. Ces CM2 sont des médiateurs. Leur mission, repérer des conflits et tenter de résoudre la situation à leur niveau avant que ça ne devienne du harcèlement.
J'ai un ami, il avait eu un peu de fièvre dans la classe. Il est retourné 3 jours après à l'école. Il y a eu des rumeurs sur les réseaux sociaux qui disaient qu'il avait le Covid. Plein de personnes avaient peur et tout. Sauf que c'était juste une rumeur. Et donc moi je lui ai dit qu'il fallait plutôt en parler à la maîtresse que de garder ça pour toi. Et ça t'évacuait la chose.
Dans leur cahier de formation, les élèves ont noté côté une liste d'émotions, peur, colère, honte, avec à côté leur manifestation physique. Pas évident de savoir interpréter les signaux d'alerte à 9-10 ans. C'est tout l'enjeu de la formation imaginée par leur directrice d'école, Micheline Chartami.
Les élèves qui ne parlent plus aux autres, les élèves qui ont des résultats qui chutent, ont mal au ventre, puis des conflits répétés avec d'autres personnes.
Si les faits se répètent ou sont graves, c'est alors un adulte qui prend le relais. La directrice fait également intervenir des agents de police pour les sensibiliser au cyberharcèlement.
Virginie Riva. Le foot, c'est mal parti pour que ce soit un club français qui remporte la Ligue des Champions. Mais on n'en est pas encore là. Le PSG battu 2-1 par Leipzig hier. Rennes 3-0 par Chelsea ce soir en Ligue Europa. Slavia Prague contre Nice à 18h55 et AC Milan contre Lille à 21h. En tennis, la millésima victoria de Rafael Nadal.
Je traduis, la millième victoire de Rafael Nadal depuis le début de sa carrière.
En fait, vous êtes complètement bilingue, Mathieu. C'était hier à Paris-Bercy face à Feliciano Lopez. Et voici ce que dit Nadal quand on l'interroge sur cette millième victoire de son parcours.
La chose négative quand vous gagnez votre millième match, c'est que ça veut dire que vous êtes vieux, que vous avez une longue carrière. Mais je suis très heureux, précise Rafael Nadal en anglais.
C'est sympa.
Dans le texte, il faut traduire toutes les langues.
C'est l'un des 4 seuls tennismen à avoir plus de 1000 victoires en compétition.
Merci beaucoup, François Geffrier. C'était le journal de 8h sur Europe 1, 8h11. Yannick Mireur, alors on a les yeux rivés sur les États-Unis. Je rappelle que vous nous accompagnez, vous êtes politologue spécialiste des États-Unis et on se pose les questions de ces procédures de Donald Trump. On a parlé des cours suprêmes par État, de la Cour suprême, on en a beaucoup parlé ces derniers mois, notamment avec sa coloration conservatrice. Est-ce que les juges de la Cour suprême jugent en fonction de leur parti d'origine ou... Est-ce qu'ils interprètent le droit comme l'attendre de leur part ?
Non. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus sensible que ça. C'est tout à fait construit. Et donc la simplification à laquelle donne lieu Trump, qui jette un petit peu le discrédit sur cette Cour suprême qui est le temple de la démocratie aux États-Unis, est malvenue. Et d'ailleurs, j'en prends pour preuve, puisqu'on a beaucoup parlé de Pennsylvanie et que nous attendons les résultats de Pennsylvanie. La Cour suprême de Pennsylvanie, de l'État de Pennsylvanie, a jugé que l'on pouvait jouer une extension de 3 jours pour le dépouillement des bulletins. Et tout ceci n'a pas été cassé par la Cour suprême à Washington, qui a voté 4 contre 4, et pourtant une majorité conservatrice. C'est un très bon exemple du fait que la Cour joue différemment que les lignes partisanes que l'on commente à longueur de temps.
La lecture du droit, bien sûr, oui. Le droit d'abord. 8h12 sur Europe 1.